Vous écoutez
RMC.
Mardi 26 mai,
l'info sur RMC.
Merci d'être avec nous le matin. Il est 6h, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Bonjour Céline.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le chômage partiel comme prévu à partir de lundi prochain, l'État va se désengager petit à petit. L'employeur devra supporter un reste à charge d'un peu moins de 15%. Un plan de soutien de l'État au secteur de l'automobile va être annoncé aujourd'hui par Emmanuel Macron. Les ventes de voitures ont chuté de près de 90% le mois dernier. Et puis football, finalement, il reste. André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a été convaincu par ses joueurs. Bienvenue à tous sur RMC. Pour relancer la machine économique, le gouvernement va bien revoir à compter de lundi les conditions de prise en charge du chômage partiel. Une prise en charge qui sera de 60% contre 70% depuis le début de la crise. Des entreprises davantage sollicitées donc pour financer le dispositif qui concerne 8 millions de personnes dans le privé. Les explications de Rémi Hinck.
Pour le ministère du Travail, cette prise en charge dégressive permet d'encourager la reprise d'activité, de pousser les entreprises à faire revenir leurs employés. Pour le salarié, rien ne change. Il continuera de percevoir au minimum le SMIC net ou 84% de sa rémunération nette, davantage si l'entreprise complète. Les secteurs qui font l'objet de restrictions particulières en raison de la crise sanitaire, comme le tourisme, la culture, la restauration, continueront à bénéficier d'une prise en charge à 100%. Les organisations patronales aimeraient d'ailleurs que les entreprises qui travaillent majoritairement avec ces secteurs, une blanchisserie qui travaille avec des hôtels, un fournisseur de boissons qui travaille avec des bars et des restaurants, conservent elles aussi une prise en charge totale par l'État. La mesure sera mise en œuvre par décret après l'adoption d'un projet de loi en cours d'examen au Parlement.
La crise du Covid-19 a figé l'industrie automobile pendant des semaines. La reprise est timide, le secteur économiquement dévasté. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit annoncer aujourd'hui un plan de soutien à la filière. Les sous-traitants, pour la plupart des PME, craignent de terribles répercussions au niveau de l'emploi. C'est le cas de Technitube à Étubes dans le Doubs, une usine spécialisée dans la fabrication de tubes de refroidissement et qui emploie 100 personnes. La production est en chute libre, pas le choix. L'entreprise va licencier. Le reportage de Romain Poiseau et Florian Chevalet.
Une usine presque déserte, une poignée de salariés au travail. Michel, chef de production, a la boule au ventre en arrivant tous les matins.
T'es tout seul, tu bois ton café, tu sais pas de quoi sera fait le lendemain, quoi.
Depuis début avril, la production de pièces automobiles fonctionne au ralenti. 60% des salariés sont au chômage partiel. Karim, Michel et les autres l'ont appris il y a quelques jours. Il y aura bien des licenciements dans l'entreprise.
Je me dis, c'est peut-être le dernier jour, peut-être c'est la dernière semaine, c'est le dernier mois. On est obligé d'y penser, c'est obligatoire.
Pour autant, il faut sauver l'entreprise, continuer à travailler pour limiter la casse.
Ne pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout, de ne pas avoir à passer devant son entreprise avec des vitres peintes en blanc pour montrer qu'il n'y a plus rien dedans.
L'entreprise ne reçoit plus de commandes de grands groupes comme PSA ou Mercedes.
Ça fait usine qui est en train de crever si on ne fait pas quelque chose.
Le PDG de Technitube, Jean-Pierre Moret.
Notre chiffre d'affaires a été réduit de 70%. Il est probable qu'il faille faire partir pas loin de 10 personnes.
Alors aujourd'hui, il demande au gouvernement de mettre la pression sur les banques afin d'obtenir rapidement des crédits.
Il faudrait qu'on puisse avoir, d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 million.
Sans cet argent, le nombre de départs pourrait être plus important.
Emmanuel Macron sera donc à Étaples dans les Hauts-de-France, dans l'usine Valeo Équipement Électrique Moteur qui a vu là aussi son activité fortement affectée par la crise du coronavirus. La France a enregistré 90 nouveaux décès du Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. Le nombre de malades en réanimation continue de baisser. Hier, une grande concertation a donc débuté pour redessiner le système de santé français. Édouard Philippe a promis des changements rapides et annoncé un plan massif d'investissement.
La revalorisation sera significative, mais le chantier de la reconnaissance des soignants concerne en réalité tous les enjeux de ressources humaines. Il faut également agir sur les déroulés de carrière, sur les métiers eux-mêmes. Des avancées ont d'ores et déjà été enclenchées ces derniers mois. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. Dans ce cadre, la question du temps de travail n'est pas taboue. Là encore, le maître mot doit être celui du pragmatisme. Je ne préjuge pas ici du résultat des discussions. Mais j'ai dit qu'il fallait lever les contraintes de toute nature. Le temps de travail doit être regardé de la même façon.
L'Organisation mondiale de la santé suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine, ce médicament prôné par le professeur Raoult. Décision prise par mesure de précaution après la publication d'une étude dans la revue médicale The Lancet. Étude qui juge inefficace, voire néfaste, le recours à ce traitement. RMC 6h04, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a dit hier ici même sur RMC et BFM TV. Il est favorable à un report des soldes d'été. Annonce bien accueillie par les commerçants qui souhaitent pouvoir refaire leur trésorerie. Reportage à Lyon, Eloïsa Patricio.
Cette boutique indépendante paie les conséquences des 8 semaines de fermeture. Le propriétaire Steven Scont fait face à un manque à gagner de 40 000 euros sur son chiffre d'affaires. Alors le report des soldes, ce serait une bonne nouvelle.
On a tous beaucoup de stocks d'été qui vient d'arriver, ou qui est même arrivé pendant le confinement, et qu'on n'a pas eu le temps d'exploiter ni de vendre. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire notre argent, de faire notre marge. Donc s'il y a les soldes qui arrivent tout de suite, on va vendre sans gagner d'argent en fait. Donc on pourra toujours pas payer nos loyers, nos salaires.
Les consommateurs devraient donc attendre quelques semaines supplémentaires pour faire des bonnes affaires. Julie, 26 ans, a récemment été embauchée dans un laboratoire de recherche. Avec ses revenus modestes, la période des soldes est indispensable pour refaire sa garde-robe.
J'aimerais bien que ça arrive bientôt, puisque sinon, je sais pas, il y a des choses dont j'aurais besoin tout de suite en fait, que j'ai pas pu acheter pendant le confinement. Et là, clairement, avec le confinement, j'ai pas eu le même salaire.
D'après le ministère de l'Économie et des Finances, la date définitive devrait être annoncée la semaine prochaine.
Un arrêté municipal qui rendait obligatoire depuis jeudi le port du masque dans l'hypercentre de Strasbourg aux heures très fréquentées. Eh bien, cet arrêté a été suspendu hier par le tribunal administratif. Il ne manque plus que le feu vert des parlementaires. L'application de traçage Stop Covid destinée à repérer la propagation du coronavirus sera disponible dès le week-end prochain si les parlementaires l'approuvent. C'est ce qu'a fait savoir hier le secrétaire d'État au numérique Cédric O. À Marseille, c'est certain, les élèves des petites sections de maternelle ne reprendront pas l'école avant le mois de septembre. Annonce de la mairie qui explique que cette décision par la difficulté à respecter les recommandations sanitaires. Marseille, où finalement l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, confirme officiellement qu'il continue à l'OM la saison prochaine. Julien Richard.
Oui, il reste et s'il reste, c'est en grande partie pour ses joueurs. André Villas-Boas a profondément été touché par les messages de soutien de son effectif reçus en nombre ces derniers jours. Après avoir longuement hésité, il ne se voyait pas partir avec le goût d'inachevé de cette saison tronquée. S'il reste, c'est aussi pour vivre l'aventure de la Ligue des Champions avec ce groupe, donc avec ce club et ses supporters fantastiques, dixit Villas-Boas. En froid glacial avec le président Jacques-Henri Hérault, les deux hommes se sont entretenus hier pour aplanir certains points et notamment l'épineuse question du mercato des Et Marseille doit vendre pour 60 millions d'euros afin de se plier aux règles du fair play financier. Ce ne seront pas les soldes à la commanderie, a assuré le président de l'OM à son entraîneur.
Ouais, L'OM, un feuilleton sans fin.
Oui, un feuilleton. Oui, ça y est, il y a une fin pour l'entraîneur. Oui,
pour l'instant.
Puisqu'il reste. Bien, il est 6h07. Merci Céline. On se retrouve tout à l'heure, évidemment, à 7h pour le journal de 7h avec de nouvelles informations. Et je vous donnais une information, Céline en parlait dans le journal. Les rodéos sauvages, en ville comme à la campagne d'ailleurs, ces rodéos. Je vous donne quelques chiffres. Écoutez-moi bien, 39 000 interventions, je dis bien 39 000 interventions des forces de l'ordre depuis 2 ans. 3 600 infractions. C'est un phénomène national avec des incidents de ce type partout en France, Quentin Vinet.
Oui, les rodéos se multiplient depuis quelques semaines à Lyon. Et dans sa région, il y a quelques jours, un policier se faisait percuter alors qu'il intervenait pour mettre fin justement à un rodéo. C'était à Villeurbanne. Un autre policier a été pris à partie à Vénissieux. Pourquoi ? Parce qu'il voulait interpeller les participants d'un rodéo géant. Il y a quelques jours encore, toujours dans la région lyonnaise, des lignes de bus ont été perturbées à Vaux-en-Velin à cause d'un rassemblement de scooters et de motos. La colère gronde, que ce soit à Nantes, à Marseille, à Clermont-Ferrand et puis en Seine-et-Marne aussi. Samedi, la police a saisi 5 motos de trial dans le secteur de Torigny au moment où les propriétaires allaient les faire rouler sur la voie publique, ce qui évidemment est interdit. Dimanche à Changy-sur-Marne, 15 motards ont roulé bruyamment en pleine campagne, selon Le Parisien, depuis le 17 mars, depuis le début du confinement. 150 infractions ont été relevées en Seine-et-Marne et 44 véhicules ont été saisis.
Pourtant, les rodéos sont sévèrement punis par la loi.
Il y a une loi depuis 2018. Le rodéo urbain, c'est un délit passible de 2 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
Et le gouvernement a annoncé un plan d'action pour lutter contre ces nuisances inacceptables et inadmissibles, dit Christophe Castaner. Mesure principale, confisquer les véhicules plus facilement. Les interventions pour des faits de rodéo ont augmenté de 15% pendant le confinement. 15% pendant le confinement. Ce n'est pas forcément leur nombre qui augmente, mais surtout des rodéos en groupe plus importants. Et ces rodéos sauvages ne touchent donc pas seulement les villes, mais touchent aussi les campagnes. Reportage Jean-Baptiste Bourgeon.
Rémi et Samy foncent très souvent à vive allure en deux roues dans les rues de leur ville, un passe-temps pour ces deux jeunes qui n'ont pas forcément conscience du danger.
C'est vrai que c'est pas bon pour les parents, tout ça, même pour moi. Et voilà, à la fin, on essaie de faire plus attention possible.
Faire juste attention, pas rouler comme un taré, c'est tout.
Nuisances sonores, vitesse et surtout risque d'accident, certains riverains sont excédés, comme cette habitante de Vaux-en-Velin, dans le Rhône.
On se sent en danger, quoi. Et ça dépasse les bornes, et c'est tous les jours, alors qu'avant c'était de temps en temps, mais là c'est tous les jours. Donc on est dans l'insécurité, on ne peut plus dormir, enfin bon, c'est infernal.
Pour lutter contre ces rodéos, le ministre de l'Intérieur souhaite accentuer les saisies de véhicules et renforcer les enquêtes judiciaires. Une bonne mesure pour Grégory Joron, du syndicat SGP Police.
Saisir immédiatement les véhicules, c'est une bonne idée, hein, ça fait cesser l'infraction. On va plutôt aller, à mon sens, vers une interpellation a posteriori avec l'utilisation sûrement de vidéosurveillance. Ça sera assez frustrant aussi pour mes collègues qui vont devoir regarder les motos passer devant eux sans pouvoir réellement intervenir. Mais si on sait que dans l'absolu, les services de police pourront aller interpeller les auteurs le lendemain matin, c'est déjà une réponse.
Le nouveau plan d'action devrait aussi miser sur la prévention auprès des jeunes et pourrait utiliser des moyens de surveillance, notamment sur les réseaux sociaux, où l'organisation de ces rodéos est massivement relayée.
Bien, vous réagissez. 3216, rmc.fr. 3216, vous savez, c'est notre lien, vous êtes avec nous. Nous sommes avec vous, Stéphane est à Mâcon, en Saône-et-Loire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour l'équipe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes agent technique à la mairie hein, de Mâcon, c'est ça. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio tous les matins, Stéphane.
Oui. Je commence un petit peu avec la radio et les écouteurs, et ensuite la télé.
Et ensuite la télé. Rodéo, à Mâcon, ça existe aussi ?
Pas vraiment. Il y en a un petit peu, mais c'est un peu plus calme.
Oui, c'est plus calme. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez dire à ce propos ?
A priori, où on rencontre des rodéos sauvages en groupe, c'est surtout dans les quartiers défavorisés.
Pas que.
Pas que. Mais la plupart du temps, vous parliez de Vaux-en-Velin, donc à côté, il y a les Minguettes, il y a Vénissieux, du côté de Lyon, il y a pas mal d'endroits où ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et la plupart du temps, quartier défavorisé, les gens qui font ça sont souvent avec des scooters qui ont été volés, à part des multi-récidivistes dans ces actions-là. Donc du coup, je me demande si en fin de compte, c'est pas une entente l'État et les assureurs pour récupérer les scooters volés au plus vite.
Ça, j'y crois pas, hein, Stéphane. Non. Ça, j'y crois pas une seconde. Non, j'y crois pas une seconde parce que si, je peux vous dire que si les forces de l'ordre pouvaient intervenir sur autre chose que des rodéos, les policiers et gendarmes seraient contents. Hein. Non, je crois pas du tout à ça. Non, je crois pas. Je crois que c'est un phénomène de mode, de foule, d'entraînement. Défi, c'est une forme de défi à la société, défi à la police, défi, c'est un défi.
Entièrement d'accord.
D'ailleurs, si vous pratiquez les rodéos, vous nous appelez, dites-nous pourquoi faites-vous cela. Dites-nous 3216rmc.fr, ce serait intéressant de savoir. Merci Stéphane, merci vraiment d'être avec nous. On va faire un peu de pub déjà, il est 6h13 parce que la pub revient. 6h13, je serai dans un instant avec un téléspectateur fidèle qui vient de vivre un drame. Il a perdu sa femme dans le Covid, à cause du Covid. Lionel Petitpas est le président des victimes du Covid-19, la première association française de famille de victimes de la maladie. Il souhaite instaurer une journée de deuil national pour les victimes du Covid. À tout de suite, 6h13.
RMC,
Bourdin Direct. C'est vrai que ces rodéos qu'on dit urbains, formule un peu médiatique, etc., ça n'est pas que dans les zones urbaines. Marie habite une petite station balnéaire de la Côte d'Opale près du Touquet. Dimanche dernier, j'ai assisté à ces rodéos dont vous parlez. Une voiture à l'avant, des motocross, des quads et même des vélos. Jamais je n'aurais imaginé voir ça chez moi. Je l'avais vu à la télé, mais là c'était chez moi. J'ai même téléphoné à ma fille pour lui dire, en plein confinement, faut quand même le faire, nous écrit Marie. Tout à l'heure, nous avions aussi au téléphone un habitant de Seine-et-Marne, mais du côté, nous disait-il, campagne seine-et-marnaise. Là encore, il nous dit, c'est quasiment devenu quotidien avec le confinement. Alors, faut-il punir plus sévèrement? Jean-Xavier nous dit, il faudrait commencer par faire appliquer les règles déjà établies. Le problème des rodéos pour les forces de l'ordre, c'est que les interventions sont délicates. Et c'est aussi ce que nous disait Marc, un policier, ce matin. Visiblement, au-dessus de lui, on lui dit de ne pas intervenir en cas de rodéo.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Allez, nous allons parler des voitures avant de donner la parole à mon invité Lionel Petitpas. Pourquoi les voitures? Parce que 400 000, il n'y a pas que les voitures d'ailleurs, des véhicules. 400 000 véhicules neufs sont en stock actuellement. Et dans les concessions, évidemment, on commence à se dire, mais comment va-t-on faire? Chez les constructeurs automobiles, on se dit, mais comment va-t-on faire pour écouler ces voitures? Comment les vendre? Il va y avoir des promotions records, ça a commencé. Regardez les pubs. Écoutez les pubs sur RMC ou sur RMC Découverte. Vous allez voir ça. Est-ce que vous êtes prêt à acheter, là? Allez-y. Et quelle voiture avez-vous envie d'acheter? Dites-nous. Il va y avoir des aides annoncées aujourd'hui par le président de la République. Vous avez des messages à ce propos?
Celui de Lydie qui nous dit que... Elle nous dit, j'ai acheté un véhicule juste avant le confinement. Ah, alors, dommage. D'ailleurs, c'est pas la seule, hein. Charles Magnin.
Je sais,
Mathieu Roux. On est plusieurs losers comme ça.
Bravo. Vous êtes bon.
Mais Lydie nous dit, de toute façon, pas électrique parce que j'ai 4 enfants. Donc, gros budget, impossible de prendre un véhicule électrique à prix grande famille. Maintenant, avec les nouvelles aides, ça peut
changer. Il va y avoir une prime à la conversion, vous savez. Alors, ça fait hurler les associations écologiques, la prime à la conversion, parce qu'effectivement, ça encourage à acheter peut-être un véhicule thermique, même sûrement un véhicule thermique plus neuf.
Oui, mais plus propre, du coup.
Plus propre,
mais
ça fait hurler les associations écologiques, parce que on n'achètera pas d'électrique ou d'hybride, mais qu'on va acheter un moteur thermique, Charles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est vrai que là, il y a Il y a 4 000 euros pour un thermique, 8 000 euros pour un électrique. Pourquoi ne pas faire 12 000 euros pour un électrique et rien pour un thermique, par exemple? Si vous voulez inciter
thermique, c'est
à avoir...
une prime à la conversion. Ça permet de se débarrasser d'une vieille, très vieille automobile qui, elle, pollue beaucoup. Un vieux diesel, par exemple. Je ne sais pas. Et allez-y, on ouvre le débat sur RMC.
Électrique. Inciter uniquement à l'achat d'un véhicule électrique.
Bon, les Français qui souhaitaient acheter une voiture avant le confinement n'ont pas changé d'avis pour la plupart d'entre eux, Quentin Vinet.
C'est ce que nous apprend une enquête Ipsos dans le journal Le Figaro. Cette étude, elle montre que la majorité des Français qui avaient ce projet, donc avant le début du confinement, ont toujours l'intention d'acheter un véhicule. Plus de la moitié, un bon quart a même été conforté dans son projet pendant le confinement. Un autre quart en achètera dans l'année et demie à venir. Pourquoi? C'est là que c'est intéressant, parce que la voiture apparaît maintenant comme un gage de sécurité permettant la distanciation sociale.
Il va y avoir effectivement une recrudescence des achats de véhicules. Mais quand, comment, avec quelles conditions? On en saura un petit peu plus aujourd'hui lors des annonces du président de la République. Mais si vous êtes dans une concession, si vous voulez acheter, appelez-nous. Le 32-16, c'est notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous et nous discutons évidemment. Je suis maintenant avec Lionel Petitpas, président des victimes du Covid-19, la première association française de familles de victimes de la maladie. Vous habitez, Lionel Petitpas, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à l'équipe.
Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes un téléspectateur fidèle de la matinale, Lionel. Lionel, vous habitez Cormontreuil, c'est dans la Marne, c'est pas très loin de Reims. Votre femme est décédée du Covid-19 le 29 mars. Vous présidez aujourd'hui l'association des victimes du Covid-19 et vous demandez l'instauration d'une journée de deuil national. Je ne vais pas vous demander pourquoi, Lionel Petitpas, mais à la suite du décès de votre épouse, vous vous êtes dit qu'il faut absolument rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont été les victimes de cette pandémie.
Oui, c'est tout à fait ça. Mon épouse est donc décédée le 29 mars et décédée comme une parfaite inconnue. Et ça m'a paru complètement impossible que toutes ces personnes décèdent et qu'on ne parle plus d'elle, point à la ligne. Et j'ai pris comme référence les attentats du Bataclan, non pas que je les remette en cause, bien au contraire, mais la nation a été capable d'instaurer une journée de deuil national pour ces attentats. Et là, on va arriver à plus de 30 000 morts et il ne se passe rien.
Votre ambition est de donner une voix aux victimes du Covid-19.
Tout à fait. C'est par le biais de cette association récemment créée, où pour l'instant je commence à avoir des familles qui me contactent. Je veux impérativement que le pays soit en capacité d'être à l'écoute de ce qui s'est passé au cours de cette pandémie. Et actuellement, ce n'est pas le cas.
Vous dites, ma femme m'a fait un signe depuis l'ambulance. Je ne l'ai plus jamais revue. On m'a volé un moment dans ce processus et je n'arrive pas à faire le deuil.
Oui, tout à fait. Mon épouse est partie à 2h du matin. Bon, elle m'a fait un petit signe de la main. Je ne l'ai plus revue jamais vivante, hein, puisque je n'ai pas pu ensuite me rendre à l'hôpital, puisqu'on était en situation de pandémie et avec ce Covid, il était impossible d'aller la voir. Le seul souvenir qui me reste d'elle, c'est la répartition de ses cendres au jardin du souvenir le vendredi d'après.
Je crois savoir que vous avez eu vous-même le Covid-19 quelques jours avant elle.
Oui, j'ai eu le Covid à partir du 11 mars. Donc, j'ai consulté mon médecin traitant le lendemain. Et comme nous étions au début de cette pandémie, on a connu tous les deux qu'on partait sur l'hypothèse que c'était effectivement ça. Et j'ai donc appliqué la quarantaine recommandée par les autorités à l'intérieur de la maison, entre mon épouse et moi.
Voilà, à l'intérieur de la maison et vous l'avez contaminé.
La question reste en suspens, sachant que... Sachant que mon épouse a été hospitalisée une journée la semaine d'avant son décès et qu'ils avaient diagnostiqué une infection urinaire et ils sont partis sur le traitement de l'infection urinaire.
Ils sont partis sur un autre traitement. Votre femme avait 66 ans. C'est vrai qu'elle était diabétique, donc c'était un facteur aggravant. Hein. On le sait, tous les médecins l'ont dit. Vous souhaitez que cette journée soit instaurée au plus vite parce que ce ne sont pas de simples numéros qu'on comptabilise au fil des jours.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai mis dans le cadre de ma pétition. Actuellement, on est dans le système du numérotage. Que ce soit un numéro de sécurité sociale ou autre, vous êtes un numéro le jour où vous décédez. Vous donnez un produit comptable, puisque tous les soirs, le directeur de la santé annonce le nombre de morts qui sont arrivés ou survenus, sans aucune compatie, sans rien. Et puis après, c'est fini, vous n'êtes plus rien.
Lionel Petitpas, que souhaitez-vous ? Comment doit-elle se traduire, cette journée nationale de deuil, de souvenir ?
Je souhaiterais, d'ailleurs, je l'ai déjà fait, j'ai écrit au président de la République en lui demandant de me recevoir et de lui faire des propositions et puis également de voir avec lui comment on pourrait instaurer cette journée de deuil. Donc, je suis dans l'attente là, d'une réponse. J'ai par ailleurs un rendez-vous le 4 juin avec un des députés de la Marne, avec lequel je vais aborder bien entendu ce sujet, et voir aussi avec lui comment on pourrait organiser cette journée.
Bien, nous vous accompagnerons, nous vous suivrons, Lionel Petitpas. Merci beaucoup. Hein.
Merci Jean-Jacques.
Vraiment merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 6h24, vous êtes sur RMC. Charles Magnin. Et là, Charles, nous allons changer d'univers hein, tous les matins, parce qu'avec vous, avec vous, c'est un large sourire tous les matins.
On essaie.
Vous réagissez hein, à ce que vient de proposer Lionel Petitpas. Dites-nous, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous souhaitez vraiment qu'il y ait cette journée du souvenir ? Moi, je trouve que ce serait utile. Ce serait utile pour ne pas oublier les victimes. Effectivement, Lionel Petitpas a raison. 30 000, plus de 30 000 victimes. On en est où d'ailleurs ? Quel est le dernier chiffre exact ? Vous avez le dernier chiffre ? Je crois que c'est 90 morts hier en France. Hein. Quentin Vinet va nous trouver le chiffre. Tous les matins avec Charles Magnin, donc trois histoires, trois images insolites. Et nous commençons avec les duplex du jour.
Ce n'est pas à vous, Jean-Jacques, que je vais apprendre que c'est parfois compliqué d'interviewer un invité politique à distance, en duplex.
C'est insupportable.
Insupportable pour Jean-Jacques. Mais mais ça donne parfois lieu à des situations improbables. Hier, la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, était en pleine interview en direct à la télé quand la Terre s'est mise à trembler. Un séisme 5,6 sur l'échelle de Richter, mais la première ministre a gardé tout son calme à l'antenne.
On est en train d'avoir un tremblement de terre ici, Ryan. Une bonne secousse, mais si vous voyez les choses bouger derrière moi, c'est parce que ce bâtiment bouge plus que la moyenne.
Ça s'est arrêté, Madame la Première Ministre, ou ça continue ?
Ça vient de s'arrêter.
Vous sentez-vous en sécurité pour poursuivre l'interview ?
Oui, tout va bien, Ryan. Je ne suis pas sous un lustre et j'ai l'impression que la structure de cet endroit est saine.
Sang-froid, sourire, la classe. En revanche, Duplex TV...
Vous avez vu que la première ministre néo-zélandaise appelle l'intervieweur par son prénom.
On
est dans un pays anglo-saxon.
Il y a 4 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande.
En revanche, Duplex Télé, un peu moins maîtrisé dimanche matin pour le ministre roumain de la jeunesse et des sports. Alors qu'il répondait aux questions des journalistes depuis son canapé, sa webcam a légèrement bougé et le public roumain a pu découvrir qu'il ne portait qu'un caleçon sous sa chemise bien cintrée. Un ministre en sous-vêtements, en direct à la télé, forcément l'image a fait le buzz, et là non plus, il me semble que ça n'est jamais encore arrivé dans vos duplex.
Non, jamais, mais je tenterai pas le coup. Le pistolet à eau bénite fait fureur dans les églises américaines, évidemment.
Évidemment, la semaine dernière, on a vu les images de ce prêtre de Détroit qui a mis en place une sorte de drive bénédiction devant son église. Les fidèles ont juste à baisser la vitre de leur voiture et hop, il leur envoie une petite rasade d'eau bénite à distance. Équipé de son pistolet à eau, l'image est devenue virale sur les réseaux. Il raconte d'ailleurs qu'il s'est inquiété de la réaction du Vatican. Jusqu'à présent, pas de nouvelles du Saint-Siège et surtout, il semble qu'il a fait des émules, puisque toujours aux États-Unis, plusieurs photos de baptême au pistolet à eau font le buzz. À chaque fois, le même type de scène, un bébé tenu à bout de bras par ses parents, prêtre qui se tient à bonne distance et qui lui envoie l'eau bénite avec un pistolet à eau, un baptême version distanciation physique. Pour la plupart, il s'agit de mise en scène. Le réel baptême a eu lieu quelques minutes avant, mais les images font bien rire les internautes.
Le monde de la nuit se déconfine à son tour.
Oui, ce week-end, on a pu voir des images de réouverture de discothèques en Islande, en Chine. Mesures strictes, hein, masque obligatoire, prise de température à l'entrée, c'est pas très festif comme ambiance. Alors en Allemagne, on patiente, on continue à privilégier les disco-drives, les discothèques sur des parkings, chacun dans sa voiture face au DJ. Bon, il faut aimer la musique et l'animation à l'allemande.
Jetzt geht's los. Super!
Musique et ambiance et animation à l'allemand, mais on croise les doigts pour le Macumba cet été.
Bien, Ali est avec nous. Bonjour Ali. Vous êtes à quel endroit là ? Vous êtes dans la Loire, hein ? Ali.
Non, là, actuellement, je suis à Vong, là.
Ah bon, d'accord, bon. Bon, dites-moi, les rodéos, vous connaissez, hein, Ali ?
Oui, je suis en plein dedans quand je vais voir mes parents. Ouais. On va dire, entre guillemets, j'ai grandi aussi dedans.
Vous avez grandi dedans ? Vous avez grandi à quel endroit ?
À Vong-en-Velin.
À Vong-en-Velin, beaucoup. Et maintenant, vous habitez à la campagne, je crois.
C'est ça, ouais.
Et vous en voyez toujours ?
C'est pareil, ça n'a pas... Il n'y a pas de grand changement en fait. On pense que c'est beaucoup un truc de qui se passe en ville, mais non, c'est des trucs qui se passent aussi à la campagne, pas en ville qu'à la campagne en fait. C'est pour ça que j'avais envoyé un petit message.
Oui. Et pour vous, ce sont les rockers des temps modernes.
C'est ça. C'est ce que j'expliquais dans mon message. Je vois, moi, quelques vidéos, quelques films de l'époque, et ça me rappelle beaucoup les rockers des années 70-80 avec la Harley Davidson.
Oui. Bon,
un peu moins dangereux à l'époque qu'aujourd'hui.
Oui.
Mais moi, c'est ça me rappelle.
Oui, le problème, c'est le danger pour les autres.
C'est ça, mais par rapport à ce danger-là, moi, le message que je voulais faire passer, c'est ce que je dis quand moi, je constate, quand je suis chez mes parents, on se plaint beaucoup de ces jeunes qui font des rodéos, mais à quel moment les habitants, les parents, est-ce qu'un jour on va arrêter de jouer les hypocrites, de dire bonjour à ces jeunes quand on les voit sans rien leur dire? Parce que j'en vois beaucoup qui disent bonjour, qui leur sourient, Mais il n'y a personne qui les attrape par, entre guillemets, par le callback en disant écoute, nous on est là. On
arrête
est
tes parents, conneries, quoi.
On vous voit faire des choses dangereuses, stop.
Ouais. Merci et, Ali. Et aussi ça. Ouais. Merci bonne Ali. Journée. Dans tous les cas, merci d'avoir été avec nous. Il est 6h30, la machine à café 32-16, la touche 5 avec vous. Les capsules avec, hein, évidemment.
Et le mot matin par SMS 7-32-16.
Qu'allons-nous faire, Mathieu ?
C'était hier, RMC BFM TV. Bruno Le Maire qui se disait favorable à un report des soldes de 3 à 4 semaines. C'est aussi ce que demandaient les commerçants. Ils espéraient même plus. Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Avec nous, juste après, le journal de 6h30 sur RMC.
6h31 et nous sommes avec Anne-Sophie Balbir pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Indignation des élus et des personnels soignants à Strasbourg après le match qui s'est joué dimanche. Plus de 300 personnes étaient dans les tribunes malgré les interdictions de rassemblement. L'un des joueurs témoigne ce matin sur RMC. C'était prévu, l'État va se désengager un peu plus sur le chômage partiel à partir du 1er juin. Les entreprises assumeront 15% du coût du dispositif. Et puis, voilà qui devrait relancer le débat entre pro et anti-hydroxychloroquine. L'OMS suspend temporairement les essais cliniques avec cette molécule, jugée inefficace, voire néfaste. RMC 6h32. Une conférence de presse est prévue à 11h. Y aura-t-il des sanctions après le match de foot sauvage qui s'est joué à Strasbourg dimanche? Malgré les règles sanitaires strictes imposées en France, plus de 300 personnes ont assisté à une rencontre entre une équipe du Neuf et une équipe de Haute-Pierre, deux quartiers sensibles de la ville. Ce matin, un des joueurs témoigne, Maxime Brandstatter.
Quand Ibrahim revoit les images du match sur les réseaux sociaux, il n'y croit toujours pas.
Des supporters qui rentrent dans le terrain à chaque but comme ça, on n'avait jamais imaginé ça.
D'après lui, au départ, c'est juste un match entre amis. Ils savent qu'ils ne respectent pas les règles, mais ils pensent ne pas être plus d'une vingtaine, de quoi faire deux équipes.
Quand on arrive sur le terrain, il y a déjà quelques supporters. On dit mais comment vous avez été mis au courant? Ils nous disent que l'info elle a été relayée. Et au fur et à mesure des minutes du match, ben, le nombre de supporters il a fait qu'augmenter. C'est vraiment un match entre copains. Du coup, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. Du coup, les supporters qui rentrent, on ne pouvait pas les repousser.
Dès le lendemain, les réactions ne se font pas attendre, comme celle de Serge Lair, adjoint au sport à la mairie de Strasbourg.
On n'est pas dans une situation où juste j'enfreinte une règle. Non, il y a un risque quand même, encore une fois, pour soi et pour ses proches. On a quand même cette maladie sur les bras. C'est quand même un poison, qu'on le veuille ou non.
Un poison qui depuis préoccupe Ibrahim.
Et on a juste voulu faire un petit foot. Ça s'est transformé en, comme ils disent bien, en bombe virale. Maintenant, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours, mais c'est clair que ça fait peur.
La préfecture doit préciser ce matin les suites judiciaires de ce match non autorisé.
Direction Étaples, près du Touquet pour Emmanuel Macron cet après-midi. Présentation du plan de soutien à la filière automobile, complètement asphyxiée par la crise sanitaire. Le président fera ses annonces dans une usine de l'équipementier Valeo. L'orientation principale, Bruno Le Maire le disait hier sur notre antenne, les technologies vertes, avec en échange une relocalisation de production en France. L'État et l'UNEDIC ne prendront plus en charge que 60% de la rémunération brute des salariés au chômage partiel à partir du 1er juin, le gouvernement a tranché. L'employeur paiera 15% de l'indemnisation. L'État qui se désengage un peu, donc, légitime selon Laurent Péqueur. Il est directeur général d'une entreprise spécialisée dans la distribution de boissons auprès des cafés et des restaurants.
L'État ne peut pas tout faire sans le comprendre. Je veux dire, les entreprises doivent jouer le jeu aussi. C'est une bonne avancée pour nous d'avoir une grosse aide de l'État. Maintenant, malheureusement, ça ne suffira pas. L'État doit nous aider aussi en allégeant les charges sociales sur l'ensemble de nos salariés, au moins jusqu'à fin septembre, pour nous permettre de retrouver un équilibre au niveau de nos structures.
Et au-delà des aides gouvernementales, je pense qu'il serait vraiment un temps judicieux que les assureurs jouent enfin leur rôle d'assurer au moins la prise en charge de toutes les marchandises qui ont été perdues par nos clients et aussi dans nos entreprises.
Et les secteurs qui font l'objet de restrictions particulières en raison de la crise, comme le tourisme, la culture ou la restauration, continueront à bénéficier d'une prise en charge à 100%. Selon le dernier bilan du coronavirus, 90 personnes de plus sont mortes en 24 heures. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Les essais cliniques se poursuivent sur le Covid un peu partout dans le monde. L'OMS a suspendu temporairement ceux avec l'hydroxychloroquine. par mesure de précaution, Gladys Laffitte.
Oui, et c'est une conséquence directe de cette étude publiée vendredi dans la célèbre revue scientifique The Lancet, qui juge inefficace, voire néfaste, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, l'un de ses dérivés, pour lutter contre le virus. Selon cette étude, ces molécules augmentent même le risque d'arythmie cardiaque et de décès, suffisant donc pour faire réagir l'OMS, qui stoppe tous les essais. Pour analyser et examiner en profondeur toutes les données déjà recueillies par ces essais cliniques lancés depuis plus de 2 mois, 3500 patients ont déjà été recrutés dans 17 pays différents. Une mesure de précaution que ne va pas suivre le Brésil, annonce hier du ministère de la Santé brésilien. Il n'y aura aucune modification dans nos consignes, alors que le pays est le plus touché par la pandémie en Amérique latine.
Gladys Laffitte en direct pour RMC, merci beaucoup. Stop Covid pourrait être disponible dès ce week-end. Le gouvernement vient de dévoiler un premier aperçu de l'application sur iPhone. Je vous le rappelle, elle permettra de répertorier les personnes ayant été en contact avec des malades et ainsi permettre de repérer le plus vite possible les cas de contamination pour pouvoir les isoler. Martin Cadoret.
Qui paraît très simple avec des messages clairs, des images qui révèlent tout d'abord qu'un code délivré par son laboratoire sera obligatoire pour pouvoir se déclarer positif au coronavirus sur l'application. Les autorités veulent ainsi limiter les fausses déclarations qui pourraient nuire aux opérations de traçage et susciter inutilement des inquiétudes. Si un utilisateur s'est déclaré positif, une alerte sera alors envoyée sur les téléphones des personnes qu'il a croisées. On peut y lire « Vous avez croisé ces derniers jours une personne testée positive au coronavirus ». Pour que cela fonctionne, l'exécutif mise sur le téléchargement massif de cette application. De nombreux messages incitent d'ailleurs à la partager auprès de ses proches.
La réouverture des parcs et jardins dans les zones rouges se fait toujours attendre. L'association Respire a remis une pièce dans la machine. Elle a déposé un référé devant le Conseil d'État. Elle estime que cette fermeture est contre-productive et elle n'est pas la seule à le penser. Reportage à Paris, Thomas Chupin.
C'est un peu amer que cette Parisienne est sortie prendre l'air.
On est comme dans un zoo, là. On regarde la nature, derrière les grilles.
Besoin de verdure pour Amélia aussi en plein pique-nique. Mais un pique-nique un peu particulier, la nappe est dressée sur les pavés parisiens.
C'est vrai qu'en bas, c'est plus sympa, quoi. Il y a plus de verdure. Là, on est sur les pavés. Bon. Les gens, ils se regroupent pareil à l'extérieur des parcs. Alors, pourquoi pas à l'intérieur?
Autre fervent militant de la réouverture des parcs, Joël et Guérino. Oh, deux joueurs de pétanque du nord de Paris.
Parce qu'il y a beaucoup de joggeurs qui font leur footing justement en dehors du parc.
Déjà qu'on nous a autorisé à jouer plus ou moins au boule. Les gens, comme il fait beau, ils viennent se promener et puis on est trop près les uns des autres.
Alors c'est avec tous ces arguments que l'association Respire et son président Olivier Blon a saisi le Conseil d'État.
Vers 18h, on voit bien des attroupements sur une petite placette, le rebord d'une petite rue, au fond d'une impasse. Alors qu'on veut protéger les gens, en fait, on les confine dans les rues, sur les trottoirs. Sous réserve qu'on fasse respecter les règles logiques de protection, eh ben, on peut utiliser ces parcs de manière saine.
Et pour l'instant, seuls les deux bois de Boulogne et de Vincennes sont ouverts, mais il est toujours interdit de pique-niquer, de jouer au foot ou de se rassembler à plus de 10 personnes.
Les courses, Mathieu, c'est à Dieppe aujourd'hui.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favorite numéro 2 d'Alvani, outsider numéro 9 à la Covia. La numéro 2, le numéro 9.
Le numéro 2 et le numéro 9, c'est bien,
c'est
ça.
Exactement.
On a bien retenu. Merci Mathieu. Il est 6h39. Anne-Sophie Balbir sera là à 7h30. Le tabagisme en baisse chez les femmes. Oui, les femmes fument moins. Est-ce votre cas ? 3216, notre lien, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, Quentin Vinet.
La Santé publique France parle carrément d'une très forte baisse concernant le tabagisme depuis 5 ans, c'est dans son baromètre de 2019 sur le tabac en France. L'organisme remarque que la tendance est effectivement surtout marquée chez les femmes. Entre 2018 et 2019, une baisse est observée pour le tabagisme en général, moins 2%, et pour celles qui fument au quotidien, moins de points, là encore, il n'y a plus qu'une femme sur cinq qui fume chaque jour en France. Et alors, le portrait du fumeur reste le même. Les hommes, 54%, les moins de 55 ans, moins diplômés, souvent au chômage et en moins bonne santé mentale, selon Santé publique France, c'est-à-dire sujet à l'anxiété, dépressif ou insomniaque.
Le confinement va laisser des traces. Est-ce que vous savez qu'un francilien, un habitant d'Île-de-France sur deux, veut quitter la région parisienne?
54% très exactement, contre 38% avant
plus
le confinement.
Plus d'un sur deux. Donc ça, 54% des habitants d'Île-de-France Ont envie de partir.
Ça a énormément augmenté selon l'association Paris Je Te Quitte. Alors pour certains, jusque-là, c'était un vague
Paris
projet.
Paris Je Te Quitte.
Oui, Paris Je Te Quitte, ça s'appelle cette association.
Ah ben
jusque-là, c'était un vaste projet. Vous savez, oui, moi, je vais quitter Paris dans un an ou deux, mais je me laisse le temps. Bon, maintenant, c'est tout de suite. Un habitant sur deux veut quitter Paris, la capitale, la banlieue, le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que le confinement a été une épreuve dans des petits espaces avec le bruit des voisins, les travaux, sans espace vert, sans balcon aussi pour beaucoup d'entre eux. D'ailleurs, depuis le 11 mai, les appartements avec terrasse sous balcon sont très prisés et font grimper les prix de quasiment 9% selon les spécialistes de l'immobilier. C'est valable aussi pour les autres grandes villes de France. Et toujours depuis le 11 mai, les maisons avec jardin sont extrêmement recherchées. Tous les réseaux immobiliers ont constaté un afflux de connexions sur leurs sites pour les maisons et pour les jardins avec une hausse de 4 points en un an. Les critères de recherche évoluent également. Les Franciliens maintenant sont prêts à s'éloigner des centres-villes.
C'est votre cas ou pas ? Allez-y, 32-16 rmc.fr, j'attends vos témoignages. Tiens, je vais prendre Philippe sur les voitures. Il va changer de voiture, il va tout nous raconter, Philippe. Il est dans l'Ain, juste après la pub. La pub, où nous retrouverons aussi, après la pub, Jacques Cressel, qui est délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Il représente les principales enseignes de la grande distribution. Carrefour, Auchan, Casino, Décathlon, etc. Lui est contre le report des soldes d'été. Bruno Le Maire, hier, parlait d'un report de 3 à 4 semaines de ces soldes. Vous êtes pour, vous êtes contre. Là encore, vous appelez 3216. Notre lien tout de suite avec Jacques Cressel et avec Philippe, que je prendrai avant. Ensuite, Jacques Cressel nous dira, lui, qu'il est favorable au maintien des dates prévues. À tout de suite.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct. J'écoutais, je regardais les pubs. Vous avez entendu le nombre de pubs pour l'automobile. Toyota, par exemple, vous achetez une Toyota, vous payez l'année prochaine. Je crois que c'est une Yaris. Vous achetez, vous payez l'année prochaine. Les offres vont s'accumuler. Philippe est à Chevroux dans l'Ain. Bonjour Philippe. Philippe, vous êtes là ?
Oui.
Chef
oui,
de cuisine, auditeur fidèle. Ça va Philippe ?
Bien, et vous, Jean-Jacques ?
Samedi, vous allez voir si vous pouvez changer de voiture. C'est ça.
J'ai l'intention de changer de voiture et puis j'espère que les concessionnaires feront des propositions surtout sur l'électrique ou l'hybride.
Qu'est-ce que vous aimeriez acheter ? Une électrique, une hybride ?
Électrique ou hybride, voire les deux.
Ouais.
Changer mon diesel pour deux autres voitures.
Ouais. Vous savez que pour une électrique, à mon avis, d'après ce qu'on croit savoir, ce sera 8000 euros.
Mais c'est une erreur de faire une prime pour les thermiques. Parce que quand vous allez chez
pas les thermiques, je vous parle d'une électrique, 8000 euros.
Oui, mais
et il y aura aussi une prime à la conversion. Vous ne trouvez pas ça bien, vous ?
Mais non, parce que déjà que les concessionnaires ne mettent jamais en avant les véhicules hybrides ou les véhicules électriques, ils pensent qu'à vendre leur thermique. Alors, si vous voulez l'électrique soit encore plus vendu, il faut mettre le paquet sur l'électrique.
Mais 8000 euros, c'est pas mal quand même, non ?
Mais vous avez vu les prix de lancement des voitures électriques, Jean-Jacques ?
Oui, elles sont chères.
Ça coûte pas 10 000 balles, hein.
Ouais, je sais qu'elles sont très très chères. Mais il va y avoir, je pense qu'en ce moment, le client est roi. Vous voulez que je vous dise 400 000 véhicules en stock, Philippe.
Mais pas d'électrique.
Peut-être moins d'électrique parce qu'il y a eu moins de production de voitures électriques.
Ça, c'est
sûr. Eh oui, ça, vous avez raison, mon cher Philippe. Tiens, ça tombe bien puisque tout à l'heure, à 7h40, j'aurai le délégué à
François Roudier.
Voilà, François Roudier.
Oui, qui représente les constructeurs français.
Les constructeurs français. Donc, je vais lui poser la question. Je vais dire en stock, là, vous avez beaucoup de voitures électriques, hybrides peut-être un peu plus.
Bon,
bonne chance. Vous me direz la semaine prochaine, Philippe, comment ça s'est passé.
Si vous voulez. Allez. Par contre, je vais profiter pour passer un petit bonjour à l'Union musicale de Mandia, dont je fais partie pour la musique.
Allez,
bonjour
génial.
À tous mes copains.
Allez, salut Philippe, merci.
Salut.
Merci pour les copains. Jacques Cressel est donc avec nous, délégué général. Bonjour Jacques Cressel, de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Je rappelle que vous représentez les grandes enseignes de distribution, les grands distributeurs. Jacques Cressel, vous êtes pour ou contre le report des soldes d'été ?
Nous sommes favorables à un léger report, mais pas celui qui était envisagé hier. Le ministre a parlé du 15 juillet, ça nous paraît très tard, tout simplement parce que le commerce, il sort totalement rincé de cette crise, hein, 2 mois et un peu plus de fermeture. C'est naturellement très difficile pour la plupart des commerçants. C'est aussi une reprise lente. On voit bien les consommateurs aujourd'hui, ils ne se précipitent pas dans les magasins, sauf lorsqu'il y a des promotions. Et ce qui était dit à l'instant sur l'automobile se retrouve dans tous les secteurs du commerce. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de faire repartir l'activité le plus rapidement possible, par les soldes, mais pas seulement d'ailleurs. C'est pour ça que nous sommes favorables, au-delà de l'automobile, à ce qu'il y ait un vrai coup de pouce à la consommation dès le mois de juin, et non pas en attendant septembre, le plan de relance qui nous est promis, parce que c'est aujourd'hui que c'est urgent de faire repartir la machine de la manière la plus rapide possible.
Bien, nous n'avons rien vendu depuis 2 mois, disent les petits commerçants. Ça, c'est le président de la Confédération des commerçants de France qui le dit. Résultat, nos commerçants souhaiteraient pouvoir écouler leur stock de printemps au juste prix avant d'entamer des démarques. Et lui plaide pour un report au moins au 22 juillet. Hier, sur notre antenne, avec moi, le ministre a parlé du 15 juillet. Vous vous dites, non, il faut que ça soit avant les soldes, parce que les Français sont attachés aux soldes. C'est cela, la reprise est lente, il faut absolument accélérer cette reprise.
Exactement. Exactement. Il y a la très grande majorité du commerce aujourd'hui est favorable au fait d'avoir des soldes début juillet. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps. Il y a quelques petits commerçants qui, effectivement, notamment dans le domaine de l'habillement, souhaitent que ça soit décalé. Nous entendons cet appel et donc nous proposons que ça se fasse début juillet. Mais au-delà de début juillet, il faut bien voir qu'on va se retrouver dans une période qui, j'espère, sera une période de vacances. Ça va être beaucoup plus compliqué. On n'achète pas des maillots de bain après être parti en vacances. Il faut faire en sorte que le commerce puisse repartir globalement le plus rapidement possible. Et pour les petits commerçants en question, on sait très bien qu'ils vont avoir besoin, eux aussi, d'avoir de la trésorerie. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Dans tous les magasins, vous commencez déjà, dans les petits, dans les grands, à avoir des promotions. Et c'est ça qui marche. Donc, autant être raisonnable, faire des soldes de manière normale, plutôt que de se lancer dans quelque chose qui sera complètement désordonné.
Alors, il y a aussi une opération promotionnelle qui fait hurler les commerçants. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Du 27 mai au 2 juin, les French Day, c'est une opération de 6 grands sites français de commerçants en ligne qui provoque donc la colère de la Confédération des commerçants de France. Et vous ?
Il faut bien se dire que la Confédération des commerçants de France représente quelques magasins. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos magasins, nos sites de vente en ligne soient compétitifs par rapport à des Amazon ou des Alibaba. Si on se contente de dire ne faisons rien, faisons en sorte d'annuler les soldes, de jamais faire de promotion, c'est le contraire du commerce. Le commerce, c'est mettre en avant des produits. C'est exactement ce qui est en train d'être fait justement par ces opérateurs, ces enseignes, qui veulent faire repartir l'activité, parce que sans activité, eh bien, comme le disait un de vos confrères du Figaro hier, il n'y aura plus de job pour personne.
Oui, Jacques Cressel, d'accord, mais ça tue le petit commerce. Opérations comme cela, non ? Non ?
Non,
non, je ne sais pas, moi, je vous pose la question.
Je faisais un tour de petits commerces de l'habillement ce week-end. Ils me parlaient tous de leur vente privée. Donc il faut être raisonnable aussi. Il y a le discours d'un côté et puis il y a la réalité de l'autre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont inquiets. D'abord, ils ont perdu en pouvoir d'achat pendant la crise. 12 millions de personnes
en chômage partiel. Mais ils ont épargné, beaucoup ont épargné.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut les encourager à utiliser cette épargne. Il faut donc, au-delà des soldes, le gouvernement mette en place des incitations extrêmement fortes sous forme d'aide à la consommation, comme c'est le cas sur les voitures, mais il n'y a pas que sur les voitures. Il faut imaginer des mécanismes, nous avons fait des propositions dans ce sens-là, pour faire en sorte que les Français soient incités à acheter et que ceux qui, par contre, ont des difficultés pour acheter, eux, soient aidés aussi. La relance de la consommation, c'est quelque chose d'extrêmement urgent aujourd'hui pour faire en sorte que l'activité fonctionne.
Merci beaucoup. Merci Jacques Cressel. Merci. Il est 6h52. Là encore, ça fait débat. 3216rmc.fr. Mathieu.
Revenons à l'automobile victime du coronavirus. Vous savez ce que nous promet Anthony Morel depuis des mois, des années, la voiture autonome. Eh bien finalement, ce ne sera pas pour demain. C'est pas vraiment déjà demain avec Anthony Morel dans un instant sur RMC.
RMC, Bourbon Direct.
Revenons aussi sur la bonne nouvelle que nous donnait Quentin Vinet tout à l'heure. Moins de fumeurs en France, en particulier moins de fumeuses. Mais vous êtes nombreux à témoigner ces derniers mois. J'ai arrêté, tiens, Alistair nous dit, moi j'ai arrêté le 10 janvier grâce à l'hypnose. Je fumais depuis 21 ans, j'en étais rendu à un paquet et demi par jour. Ça faisait quand même 15 euros. Patrick nous dit qu'il a arrêté aussi et qu'il se sent beaucoup mieux depuis, beaucoup moins de problèmes de santé. Ce message de Guillaume qui a arrêté de fumer le 1er janvier 2017, arrêt du jour au lendemain, juste avec la volonté. J'encourage toutes celles et ceux qui souhaitent à arrêter. Cyril, ça fera 5 ans le 16 juillet que j'ai arrêté de fumer. Je l'avais promis à mon épouse à la naissance de notre fils. J'ai pris le chamois pour m'aider et j'en suis bien content aujourd'hui. Il faut du courage et de la motivation. Et vous, est-ce que vous avez arrêté ces derniers temps? Qu'est-ce qui vous a décidé? Comment vous avez réussi? Surtout, venez partager vos bons conseils. 3216 et l'appli Direct Studio ce matin.
RMC, c'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour Jean-Jacques.
Dites-moi Anthony, vous qui êtes un fou des voitures autonomes, des voitures volantes et tout.
Aussi.
Avec les conséquences de la crise, l'innovation va en prendre un coup là.
Ça c'est vrai. Hein? Ces fameuses voitures volantes que je vous promets depuis longtemps, moi qui sont un de mes rêves, c'est vrai. Je sais que vous détestez cette idée que les voitures vont se conduire toutes seules, etc.
Exactement.
Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu parce que là, ce qu'on voit, c'est que concrètement, les constructeurs commencent à tailler dans les budgets de recherche et développement. Oui. Hein, c'est plus vraiment la priorité. Les voitures autonomes. Et on voit, par exemple, Ford, par exemple, ils avaient un projet de robotaxi qui devait arriver dans nos centres-villes. C'est un truc complètement fou. C'est-à-dire, vous commandez un taxi comme aujourd'hui via une application mobile, il arrive sur le seuil de votre porte, personne à l'intérieur, vous entrez, vous mettez la destination et vous partez où vous voulez. Bon, ça devait arriver sur les routes très prochainement. Ils disent, à cause du Covid, on va attendre au moins jusqu'à 2022. Il y a eu plein de constructeurs, plein d'annonces comme ça qui nous disent, ce sera finalement un petit peu plus
même
long.
Même chose pour les VTC autonomes.
Oui, absolument.
Alors, on ne sait pas qui pourrait se les payer, encore plus en temps de crise et économique, mais lancer une voiture complètement autonome à moins de 100 000 euros...
C'est impossible. C'est un des problèmes. C'est-à-dire la question du modèle économique. Qui va s'acheter une voiture autonome à 100 000 euros? C'est les constructeurs disent, une voiture complètement autonome, ça coûtera au moins 100 000 euros. Donc ils disent, finalement, là, c'est un budget quand même. Donc on va pas faire.
J'espère qu'elle est électrique à ce prix-là.
Ouais, alors souvent elles sont électriques. C'est vrai que souvent elles sont électriques. Donc ils disent, on va pas faire du complètement autonome, on va faire du semi-autonome. Elles seront capables de conduire toutes seules sur autoroute ou dans les embouteillages. Par contre, il faudra reprendre la main sur le volant quand vous êtes en centre-ville.
Avec le Covid, les voitures sans conducteur présentent un intérêt quand même.
Très clairement. Et on l'a vu. En Chine, par exemple, il y a l'usage des véhicules autonomes pour transporter des colis, les courses, les médicaments a explosé. Ça, je pense que pour le coup, ça va arriver. C'est le drive à l'envers, c'est-à-dire que c'est pas vous qui allez à l'entrepôt chercher les courses, ce sont les courses qui viennent vers vous via une épicerie roulante et vous récupérez vos courses via une petite voiture autonome.
Anthony Morel, merci Anthony. Louise est avec toi à Maslac dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Louise.
Oui, bonjour, je ne suis pas dans les Pyrénées-Atlantiques, je suis dans les Alpes, en Haute-Savoie.
Pourquoi on me met Pyrénées-Atlantiques? Pardon Louise, je suis désolé, moi je regarde ma fiche, je vois Pyrénées-Atlantiques. Bon, Haute-Savoie, quel endroit Louise?
À Cluses.
À Cluses, rien à voir avec Maslac dans les Pyrénées.
Non, pas du tout.
Ah non, pas du tout. À Cluses, je connais bien Cluses, et évidemment la vallée de l'Arve, Louise. Vous êtes auditrice, je crois.
Oui.
Régulière. Eh ben, vous avez bien fait, Louise, d'être avec nous ce matin parce que vous avez gagné votre machine à café, les capsules qui vont avec, Louise.
Oui, je suis très contente. Et merci, moi aussi. Jean-Jacques.
Et moi aussi, Louise. Vous êtes auditrice depuis longtemps?
Oh oui, déjà depuis plusieurs années, oui.
Bon, eh ben, merci pour votre fidélité, dans tous les cas. Il est 7h. 7h, vous êtes sur RMC.